six mois que la guerre dure dans la bande de Gaza. Cette guerre déclenchée juste après les massacres terroristes du 7 octobre en Israël et dans laquelle des dizaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers de Palestiniens ont été tués et des centaines de milliers d'autres sont menacés de famine. Six mois après, le gouvernement israélien et son armée ont-ils avancé vers leur objectif affiché, l'éradication du Hamas? La population gazaoui est-elle, comme le dénoncent de nombreuses ONG, soumise à une punition collective? Comment cette guerre a-t-elle changé ou va contribuer à changer la face du monde? Appelez-nous au 01 45 24 7000, écrivez-nous aussi sur l'application de France Inter pour réagir et poser vos questions à nos invités. Ils sont trois ce matin. Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste géopolitique au journal Le Monde. Michel Goya, bonjour à vous.
Bonjour.
Spécialiste de l'histoire militaire, ancien colonel des troupes de marine. Et Dov Alphon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la rédaction du journal Libération, ancien rédacteur en chef du quotidien israélien Haaretz. Tous les lundis, en toute subjectivité, à 7h20 sur Inter. Je précise que vous avez été officier de l'armée israélienne, des services de renseignement, lors de votre service militaire et en tant que réserviste.
Exact.
Commençons par l'annonce du week-end. L'armée israélienne dit retirer ses troupes de la ville de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, et préparer désormais l'offensive sur Rafah, où sont réfugiés 1,5 million de Palestiniens. Comment faut-il interpréter d'abord sur le plan militaire cette annonce, Michel Goya?
C'est toujours un peu difficile, l'impression de... c'est difficile d'analyser la stratégie israélienne. On a plutôt l'impression d'avoir une sorte d'accumulation de réactions. Dans mon livre, l'embrasement, j'aboutissais à la conclusion que normalement l'opération de conquête devait se terminer à la fin du mois de mars pour passer à la phase suivante de contrôle, mais en réalité cette opération militaire, elle a cumulé une opération de frappe pendant tout le mois d'octobre, dévastatrice et à mon sens très contre-productive, une vraie offensive terrestre par la suite de conquête jusqu'au mois de janvier, qui a eu quelques résultats. À partir du mois de janvier, de la fin du mois de janvier, on a un arrêt des combats, et puis maintenant on a cette annonce du retrait des forces de la 98e division, pour être précis, de la zone sud, pour se concentrer au nord. Et on peut l'interpréter de deux façons, soit côté positif israélien, de dire, on a atteint un résultat suffisant, on a détruit une bonne partie du Hamas et des groupes alliés, ce qui est vrai pour le coup, maintenant on marque une pause, on se concentre sur la libération des otages, on maintient la pression sur la masse au sud et on surveille un petit, au moins ce qui peut se passer ailleurs. Et puis vous avez l'autre version qui dit que c'est, en réalité les Israéliens ont été empêchés, que leur objectif n'a pas été atteint, de destruction, de démantèlement en tout cas du Hamas, qu'ils étaient empêchés par la résistance du Hamas. Ça sera le discours évidemment du Hamas qui dit écoutez, ça fait six mois et on est toujours là et on résiste à la puissante armée israélienne, empêchée par la pression internationale et peut-être aussi par l'opinion publique israélienne.
Justement,
d'autre chose.
En Israël, Dov Alphon, comment cette annonce est-elle perçue ?
Je pense qu'on a les deux côtés. D'abord, le côté moral, qui veut dire qu'en fait, on n'avance pas beaucoup. Se pointent les questions. Est-ce que Netanyahou est en train, depuis plusieurs mois maintenant, de faire couler le temps le plus lentement possible? Autrement dit, 4 mois sur Khan Younes pour une armée qui, en 6 jours, a conquis presque 3 pays, et qui, dans son ADN, est une force de frappe flash, et pas du tout bâtie pour des combats de longue haleine. Qu'est-ce que ça veut dire? Sinon que Netanyahou joue la carte du temps, justement pour des raisons personnelles, judiciaires et politiques. Donc ça, c'est présent dans les discours de l'opposition, mais même dans les conversations des Israéliens tous les jours. Donc évidemment, ils sont plutôt dubitatifs, je pense, sur ces annonces, ce qui ne veut absolument pas dire qu'ils pensent qu'il y a une alternative à ce mode opératoire. C'est juste que pour eux, les otages ne sont pas libérés, qui était le premier but déclaré de la guerre. Le Hamas n'est pas démantelé, qui était le deuxième but déclaré de la guerre. Et la sécurité sur les frontières sud et nord n'est nullement promise. Donc ça va pas très loin.
Justement, Benjamin Netanyahou, qui a beau assurer que son armée est à un pas de la victoire, est contesté désormais en Israël, et vous l'avez dit, Doval Font, il y a eu des manifestations ce week-end, c'est l'autre événement du week-end, pour réclamer sa démission et pour dénoncer sa gestion de la question des otages. Est-ce qu'il est, il vous paraît fragilisé aujourd'hui, Sylvie Kaufmann, le Premier ministre israélien?
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qui va se passer à Rafah. Est-ce que l'armée israélienne donne cet assaut sur Rafah? Et là, ça sera un défi lancé aux États-Unis. Parce que les États-Unis, depuis plusieurs semaines, avertissent Netanyahou et le mettent en garde. Tony Blinken l'a dit plusieurs fois, ne faites pas ça. Et le président Joe Biden a téléphoné à Benjamin Netanyahou il y a quelques jours, pour la première fois depuis un moment, en lui disant « attention ». Cette fois-ci, notre aide va être conditionnée à ce que vous faites sur le plan humanitaire. Là, il y a une sorte de ligne rouge qui a été dessinée par les États-Unis. Et si Netanyahou passe outre, je pense que là, on va arriver dans quelque chose de nouveau dans cette. J'ose à peine parler de l'image internationale d'Israël parce qu'elle s'est tellement dégradée depuis 6 mois. C'est quelque chose de terrible.
Justement, on a beaucoup dit, et Dov Alphon le disait à l'instant, que cette guerre dans la bande de Gaza est une sorte d'assurance vie pour Benjamin Netanyahou, une assurance de se maintenir au pouvoir. Est-ce qu'elle pourrait finir par causer sa chute ?
Alors, on a l'impression qu'il est engagé dans une sorte de guerre sans fin pour se maintenir au pouvoir. Et ça, c'est un danger terrible. Alors, je pense que Doval Font connaît mieux la politique intérieure israélienne que moi et saura mieux vous en parler. Mais c'est vrai que c'est de l'extérieur, c'est tout à fait comme ça qu'on le voit.
Tout à fait d'accord. Et j'ajoute pour Michel Goya qui est là avec nous, que l'armée israélienne, techniquement, ne peut pas continuer à combattre pendant de longs mois sans donner des permissions de plusieurs semaines à ces soldats réservistes, comme le marché intérieur, les industries et les services israéliens ont besoin de leur personnel, et hommes et femmes. Et donc forcément, Netanyahou est là obligé de ne pas attaquer Rafah tout de suite. Il doit de toute façon évacuer au moins les habitants du nord de Rafah, comme il y a 1,4 million de personnes là-bas. Mais donc, lui, en fait, ça joue pour lui. Ça va prendre encore des semaines, quelques semaines de répit pour les soldats et pour la vie civile. Et après, on verra bien.
Et pendant ce temps, je l'ai dit, la situation humanitaire et le bilan humain à Gaza sont effroyables. Pour quel résultat effectif, Michel Goya ?
Alors, d'un point de vue militaire, l'état-major israélien estime avoir éliminé au moins 10 000 combattants, avoir tué tout simplement, 10 000 combattants du Hamas et des autres groupes alliés, ce qui signifie, vous rajoutez au moins autant de blessés graves, des prisonniers, etc. Ça représente à peu près les 2/3 du potentiel militaire de l'ennemi.
Alors, ça veut dire, parce que l'objectif affiché de cette guerre, outre la libération des otages, c'est l'anéantissement du Hamas. Est-ce que cet objectif est réaliste,
alors,
après vous ?
D'un point de vue politique, non, du moins à court terme. En revanche, si vous, d'un point de vue militaire, vous me dites, voilà, il faut détruire le Hamas. Moi, militaire, je vous dis, moi, tout ce que je peux faire, c'est étouffer cette organisation, la démanteler, lui faire maximum de mal, et au mieux, la ramener à sa situation d'organisation clandestine, comme avant que le Hamas prenne le contrôle du territoire de Gaza. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire militairement. Or, ça, même cet objectif, pour l'instant, il n'est pas atteint incontestablement. Alors, on peut dire, voilà, maintenant, on a fait porter des coups importants, que le Hamas ne représente plus forcément une menace militaire, mais de l'autre côté, les chefs sont toujours là, le Hamas est toujours là, Khan Younes va être évacué par les forces israéliennes, le Hamas va s'y réimplanter incontestablement, donc le Hamas est toujours là. Et tant qu'il est toujours là, tant qu'il résiste à la puissante armée israélienne, il est, d'une certaine façon, il peut se présenter comme vainqueur moral.
Oui, juste sur ce point, ce qui est frappant, c'est que cet hôpital Al-Shifa, qui vient d'être détruit, avait déjà été attaqué par l'armée israélienne il y a 4 mois, pour le même but. Et 4 mois plus tard, l'armée israélienne revient, puisque, à nouveau pour détruire le Hamas, et démolit complètement cet hôpital. Donc on a l'impression que c'est sans fin. Voilà.
Michel Goya, d'un mot, quand vous entendez que l'armée israélienne utilise à grande échelle l'intelligence artificielle pour mener ses bombardements sur la bande de Gaza, pour identifier des cibles avec une marge d'erreur, avec aussi des, ce qu'on appelle des dégâts collatéraux.
Oui.
Le terme n'est pas joli, loin de là. C'est-à-dire 30 civils tués pour une petite main du Hamas ou 100 tués pour un haut dirigeant. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah écoutez, c'est une forme de mécanisation morbide de la guerre, de déshumanisation de la guerre, véritablement, à plusieurs titres. La difficulté dans une campagne de frappe, c'est de trouver des cibles, en fait. Et en utilisant cette intelligence artificielle, le brassage de données, etc., les Israéliens sont capables de sélectionner plusieurs centaines de cibles par jour, en disant, ces cibles, quand c'est militaire, ok, c'est clair, hein, mais quand c'est pas militaire, c'est un bâtiment, c'est un lieu d'habitation qu'on a identifié comme étant la maison d'un membre du Hamas, et par exemple, un bâtiment symbolique, etc., etc. À chaque fois, c'est affecté d'un coefficient de dégâts, de pertes civiles. On dit, voilà, vous tapez là, vous ferez statistiquement 2-3 morts civiles, et puis après, on décide, oui, non, on frappe, on frappe pas. Et en fait, ce qui est important, c'est le degré de libéralité accordé à ces décisions.
Je l'ai dit tout à l'heure, Dov Alfon, vous connaissez l'armée israélienne et la société israélienne. Est-ce que cette déshumanisation de la guerre, comme le dit Michel Goya, est palpable, et est-ce que les Israéliens ont conscience de cela?
On rejoint là le profond changement du 7 octobre. Donc, le fait que, pour les Israéliens, après toutes les souffrances décrites, vidéotépées, filmées et diffusées, la possibilité de voir les Palestiniens comme des humains qu'il faut donc respecter, etc., existe très peu, pour ne pas dire n'existe plus. J'ajouterais que pour les Palestiniens bombardés, massacrés, affamés, la possibilité de voir les Israéliens comme des humains qui existaient encore avant dans de larges cercles palestiniens n'existe peut-être plus. Je crois que c'est là la profonde tragédie de ces attaques du 7 octobre.
Et cette question est renforcée par le sort des otages qui occupent encore aujourd'hui beaucoup la société israélienne. Est-ce qu'il y a toujours un espoir de voir la centaine d'otages, a priori, qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza? Est-ce qu'il y a toujours un espoir côté israélien de les voir libérés?
Il y a toujours un espoir d'en voir certains libérés. Il y a la compréhension que certains sont morts, et il y a surtout le traumatisme presque quotidien, comme les témoignages, entre autres, de violences sexuelles, ne font que maintenant être diffusés et révélés. Et tout ceci ancre donc la société israélienne dans un cycle de violence qui lui a été, bien sûr, qui s'est acharné sur elle, mais on ne voit pas de force qui pourrait dire « arrêtons-nous un instant et réfléchissons à l'avenir ».
Un des faits marquants de cette guerre, c'est aussi le débat sur les mots depuis 6 mois, Sylvie Kaufmann. Comment qualifier ce qui se passe à Gaza? Une résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU votée vendredi reprend les mots de la Cour internationale de justice en parlant de risque de génocide. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, donc c'est l'Afrique du Sud qui a entamé cette procédure auprès de la Cour internationale de justice avec ce mot extrêmement lourd de sens et de conséquences juridiques aussi de génocide, qui n'est pas reconnu pour l'instant.
Est-ce que ce débat a lieu d'être? Est-ce qu'il est légitime?
Oui, bien sûr. Enfin, oui, bien sûr, il est légitime. Mais si vous voulez, c'est plus qu'une guerre de mots. Je crois que Dov Alfon vient de décrire très bien ce traumatisme réciproque de ces deux sociétés qui paraît aujourd'hui être allée tellement loin qu'on se demande comment on peut le surmonter. Et on voit bien que les institutions internationales sont impuissantes, et y compris la Cour internationale de justice, et ces mots finalement, ce débat-là est presque un peu dépassé. On a une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies il y a 15 jours qui finit par être adoptée grâce à l'abstention des États-Unis, et cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, je répète les mots parce que théoriquement c'est censé avoir un poids et un sens, demande un cessez-le-feu immédiat. Tout le monde s'en moque, ça n'a aucun effet sur le terrain. Donc voilà, les mots, si vous voulez, sont très peu de choses aujourd'hui face à cette sorte de d'obstruction et de blocage et de traumatisme mutuel dont honnêtement on voit mal aujourd'hui comment sortir.
Même le récent discours des États-Unis qui se fait plus dur à l'égard d'Israël, notamment depuis une semaine et la mort de cet humanitaire tué par l'armée israélienne, ça ne peut pas changer. changer la donne d'après
vous. Oui, alors là aussi, vous voyez cette sorte de cynisme auquel on s'habitue, qui fait que il faut que ça soit la mort de six étrangers, six ressortissants étrangers plus un Palestinien.
Occidentaux.
Occidentaux, fait, voilà, qui tout d'un coup réveille les consciences médiatiques et les consciences politiques internationales, et pour que Biden prenne son téléphone et que Netanyahou accepte d'ouvrir quelques points de passage humanitaires supplémentaires. Enfin, on est vraiment dans une situation, une recherche de solutions qui n'a aucune mesure avec ce qu'il faudrait faire.
On parle de l'impuissance que vous pointez, Sylvie Kaufmann, de ce qu'on appelle la communauté internationale. Cette résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU dont je parlais, Michel Goya, exige l'arrêt des ventes d'armes à Israël. Les principaux fournisseurs sont de loin les États-Unis et l'Allemagne. Est-ce que il y a la moindre chance que cela arrive ou pas?
Si cela arrive, ce sera pour des raisons politiques, hein, essentiellement. Et en même temps, c'est effectivement, bien au-delà des résolutions du Conseil de sécurité, c'est peut-être la seule manière d'influer sur la politique israélienne. Et puis, essentiellement, les États-Unis, quoi, très clairement. Quoi. On l'a dit, on l'a répété, il n'y a que les États-Unis qui, par au moins la menace de couper le robinet de l'aide qu'ils apportent à Israël, de l'aide militaire.
Qu'ils ont su faire par le passé.
Oui, exactement, oui.
C'est d'autant plus frappant qu'il n'y a pas
aujourd'hui. Exactement, c'est cette paralysie, alors qui est peut-être due au contexte électoral américain, mais les États-Unis, il faut le dire simplement, sont les seuls à pouvoir influencer la politique israélienne.
Doval Fon, aujourd'hui, comment est perçu le discours des États-Unis en Israël par la population et surtout par le gouvernement?
Je pense que le choc a été la petite phrase d'un sénateur démocrate très ami d'Israël qui disait en fait, pour résoudre ce conflit, tel que je comprends, il faudrait mettre à la porte Netanyahou d'un côté et Sinwar de l'autre. Et en fait,
le chef
du Hamas. Et donc déjà les Israéliens choqués un peu par cette comparaison. Mais surtout, c'est la compréhension que ces deux-là étaient les deux leaders qui étaient contre les accords de paix d'Oslo. Mmh. Et ils se retrouvent maintenant face à face dans cette guerre que eux-mêmes ont voulu et souhaité. Et cette guerre leur convient. Et je vois mal les États-Unis arriver à déloger ces deux-là de leur, l'un son bunker, l'autre sa villa à Césarée. Et donc, je suis plutôt pessimiste. Pour répondre à
Sylvie Kaufmann, un mot.
Oui, parce qu'il y a aussi cette contradiction en Israël qui est que la majorité de la population souhaite le départ de Benjamin Netanyahou, mais l'immense majorité de la population soutient aussi la poursuite des opérations militaires à Gaza.
C'est exactement ça. Ils ne voient pas d'alternative à ça.
Question d'auditeur pour vous. Emmanuel, bonjour, vous nous appelez du Var.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je souhaiterais savoir si l'attitude d'Israël va finir par interférer dans les accords de paix qui ont pu être signés avec la Jordanie et avec l'Égypte, et également dans les prochains accords de paix qui devaient être signés notamment avec l'Arabie Saoudite. Autrement dit, est-ce que les pays arabes vont supporter longtemps les crimes de guerre? Je ne parle pas de génocide parce que juridiquement, ça n'en est pas un pour l'instant, tout au moins. Mais est-ce que cela va finir par saper et remettre en cause les accords de paix qui ont pu avoir lieu? Et deuxième question, si vous voulez bien, une seconde.
Allez-y, Emmanuel.
Que va-t-on faire des soldats franco-israéliens qui sont partis en Israël et qui sont en train de commettre ces actes de guerre, ces crimes de guerre, lorsqu'ils vont en français?
Ça, c'est une question effectivement récurrente et plusieurs auditeurs nous l'ont posée depuis 6 mois au Standard d'Inter et je la poserai à Michel Goya. Mais d'abord, sur la première question, Sylvie Kaufmann, vous qui êtes spécialiste de géopolitique, on entend assez peu finalement les pays arabes qui ont entamé ce processus de normalisation avec Israël.
Oui, parmi les nombreux constats d'impuissance internationale dont on a parlé, il y a évidemment l'impuissance ou la passivité des pays arabes et ceux qui ont des relations diplomatiques avec Israël ne les ont pas rompus, par exemple. La rue arabe ne s'exprime pas non plus tellement dans sa solidarité avec les Palestiniens. Alors, la question de la normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite, notamment, puisque c'est ça, je crois, c'est cette question qui est posée, c'est frappant de voir si l'univers du 6 octobre et l'univers du 7 octobre. Tout est complètement à front renversé. C'est-à-dire que le 6 octobre, on était en effet lancé dans un processus de normalisation d'Israël avec l'Arabie Saoudite et un certain nombre de pays arabes, et on pouvait imaginer un nouveau paysage au Moyen-Orient un peu plus apaisé, sauf que la question palestinienne avait été totalement évacuée dans ce projet. Donc aujourd'hui, oui, c'est un des espoirs possibles, qui est que l'Arabie Saoudite revienne un petit peu à la manœuvre et essaye de... Mais bon, on n'y est pas encore.
Michel Goya, sur cette question compliquée des binationaux franco-israéliens qui combattent aujourd'hui dans l'armée israélienne. Certains estiment qu'ils devraient être traduits en justice à l'issue du conflit. Comment répondre à cette question aujourd'hui?
D'abord, il faudrait qu'il y ait des crimes de guerre qui soient constatés, jugés très clairement, et qu'à l'intérieur même de ces crimes de guerre, il y ait des individus qui, dont on a pu établir les preuves, qui eux-mêmes pouvaient participer à ces crimes de guerre ou les commettaient eux-mêmes. Et auquel cas, oui, s'il s'agit de citoyens français, on peut, en l'occurrence, les poursuivre. Mais en fait, on est quand même très loin.
Sylvie Kaufmann, d'un mot sur la façon dont cette guerre a changé la face du monde, l'ordre mondial. Vous écrivez dans Le Monde que c'est finalement, cette guerre signe la perte de pouvoir des États-Unis.
Oui, enfin, c'est un ordre mondial qui était déjà assez mal en point avant. On l'a vu aussi avec le blocage sur la guerre en Ukraine et le fait que la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, soit en flagrant délit de violation de cet ordre international qu'elle est censée protéger. Et là, en effet les États-Unis qui sont impuissants à exercer leur influence sur leur allié et sur un pays auquel ils apportent la plus importante aide militaire. Dans l'ensemble, et on a parlé tout à l'heure de l'impuissance aussi du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc c'est vrai qu'on a un peu l'aboutissement d'un processus là d'effondrement ou d'affaissement au moins de l'ordre mondial, et puis avec les pays du Sud qui tirent et notamment la Chine et la Russie jouent un jeu très trouble dans cette affaire au Proche-Orient, certainement pas un rôle constructif, et essaye de tirer profit de cette dégradation de l'influence américaine.
On va retourner au standard avec une question de Karine. Bonjour Karine.
Allô, bonjour. Merci de prendre ma question. En fait, j'aurais voulu savoir si nous avions d'autres sources que le Hamas concernant le nombre des victimes palestiniennes, en sachant qu'ils subissent quand même le manque d'eau et de nourriture et que c'est un minuscule territoire qui est pilonné depuis 6 mois.
Le ministère de la Santé du Hamas parle de plus de 33 000 morts palestiniens aujourd'hui. Dov Alphon, c'est vrai que cette question du bilan humain est extrêmement sensible.
Oui, déjà ce n'est pas tout à fait exact, comme nous avons probablement bien d'autres victimes ensevelies sous les bombardements qu'on n'a pas pu décompter. Donc c'est plus que 33 000. Mais d'un autre côté, dans les chiffres du Hamas, il y a entre 10 000 et 12 000 membres du Hamas qui, du coup, ne sont pas des civils. Oui. Et donc, il est très difficile de donner le chiffre, ce qui est normal dans l'état des choses. Mais souvent, dans ce genre de conflits internationaux, il y a un chiffre qui reste. Il n'est pas exact, c'est évident, mais c'est le chiffre, je pense, sur lequel, oui, tout le monde va s'accorder pour l'instant.
Une autre question sur l'application d'Inter. Pourquoi le Hamas ne rend-il pas les otages? C'est la base pour commencer à penser la paix.
C'est exactement. Oui, je suis d'accord, mais c'est exactement ce que je disais. Les deux parties, en fait, ont intérêt à faire durer le temps le plus possible. Si le Hamas rend les otages, il n'a plus de raison d'être à Gaza, et donc forcément, l'autorité palestinienne chancelante va recevoir des cartes, tandis que Israël, c'est Netanyahou. Il y a 18% de taux de satisfaction de la population. Il va certainement pas décréter des élections demain matin. Donc les deux parties s'enfoncent dans le conflit.
D'un mot, et vous l'avez dit, Dov Alphon, on s'enfonce dans le conflit. Michel Goya, il nous reste quelques secondes. Il faudrait une demi-heure de plus pour répondre à cette question. Quelle perspective voyez-vous dans les semaines et les mois à venir?
Un conflit qui va durer, encore une fois.
Et qui va s'étendre?
Qui va s'étendre, je ne sais pas. c'est pas impossible, et c'est une tentation forte chez ça, en Israël en réalité, d'en profiter pour aller taper ailleurs, ou poursuivre même la guerre du côté du Liban contre le Hezbollah, etc. Non, il n'y a pas de perspective très très réjouissante sur les mois à venir. Je parle même pas d'une solution de paix à court, à long terme, etc.
Michel Goya, merci beaucoup. Je cite votre livre « L'embrasement, comprendre les enjeux de la guerre Israël-Hamas » aux éditions Perrin chez Robert Laffont. Merci à vous. Sylvie Kaufmann, on vous lit dans le journal Le Monde, et Dov Alphon dans Libération.